Homère, l'Odyssée, chant 5. Éos sortait du lit de l'illustre Titon, afin de porter de la lumière aux immortels et aux mortels. Et les dieux étaient assis en conseil, et au milieu d'eux était Zeus, qui tonne dans les hauteurs et dont la puissance est la plus grande. Et Athénée leur rappelait les nombreuses traverses d'Odysseus. Et elle se souvenait de lui avec tristesse parce qu'il était revenu dans les demeures d'une nymphe. « Père Zeus, et vous, Dieu heureux qui vivez toujours, craignez qu'un roi porte-sceptre ne soit plus jamais ni doux ni clément, mais que, loin d'avoir des pensées équitables, il soit dur et injuste, si nul ne se souvient du divin Odysseus, parmi ceux sur lesquels il a régné comme un père plein de douceur. Voici qu'il est étendu, subissant des peines cruelles, dans l'île et dans les demeures de la nymphe Calypso, qu'il retient de force. Et il ne peut retourner dans la terre de la patrie, car il n'a ni nef armée d'aviron, ni compagnon qui puisse le conduire sur le vaste dos de la mer. Et voici maintenant qu'on veut tuer son fils bien-aimé à son retour dans ses demeures, car il est parti afin de s'informer de son père pour la divine Pylos et l'illustre Lacédaïmon. » Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondit, « Mon enfant, quelle parole s'est échappée d'entre tes dents? N'as-tu point délibéré toi-même dans ton esprit pour qu'Odysseus revînt et se vengeât? Conduis Télémaque avec soin, car tu le peux, afin qu'il retourne sain et sauf dans la terre de la patrie, et les prétendants reviendront sur leur nef. » Il parla ainsi, et il dit à Herméias, son cher fils, « Herméias, qui est le messager des dieux, va dire à la nymphe aux beaux cheveux que nous avons résolu le retour d'Odysseus. Qu'elle le laisse partir, sans qu'aucun dieu ou aucun homme mortel le conduise, sur un radeau uni par des liens, seul et subissant de nouvelles douleurs. Il parviendra le 20e jour à la fertile Chérié, terre des Phaïcaïens qui descendent des dieux. Et les Phaïcaïens, dans leur esprit, l'honoreront comme un dieu, et ils le renverront sur une nef dans la chère terre de la patrie, et ils lui donneront en abondance de l'airain, de l'or et des vêtements, de sorte qu'Odysseus n'en eut point rapporté autant de Troie s'il était revenu sain et sauf, ayant reçu sa part du butin. Ainsi sa destinée est de revoir ses amis et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie. » Il parla ainsi, et le messager tueur d'Argos obéit. Et il arracha aussitôt à ses pieds de belles sandales, immortelles et d'or, qui le portaient soit au-dessus de la mer, soit au-dessus de la terre immense, pareil au souffle du vent. Et il prit aussi la baguette, à l'aide de laquelle il charme les yeux des hommes, où il les réveille quand il veut. Tenant cette baguette dans ses mains, le puissant tueur d'Argos, s'envolant vers la pierrier, tomba de l'aïtère sur la mer et s'élança, rasant les flots, semblable à la mouette qui, autour des larges golfes de la mer indomptée, chasse les poissons et plonge ses ailes robustes dans l'écume salée, semblable à cet oiseau, Hermès rasait les flots innombrables. Et quand il fut arrivé à l'île lointaine, il passa de la mer bleue sur la terre jusqu'à la vaste grotte que la nymphe aux beaux cheveux habitait, et où il la trouva. Et un grand feu brûlait au foyer, et l'odeur du cèdre et du thuya ardent parfumait toute l'île. Et la nymphe chantait d'une belle voix, tissant une toile avec une navette d'or. Et une forêt verdoyante environnait la grotte, l'aulne, le peuplier et le cyprès odorant, où les oiseaux qui déploient leurs ailes faisaient leur nid. Les chouettes, les éperviers et les bavards de corneilles de mer qui s'inquiète toujours des flots. Et une jeune vigne dont les grappes mûrissaient entourait la grotte, et quatre cours d'eau limpides, tantôt voisins, tantôt allant çà et là, faisaient verdir de molles prairies de violettes et d'aches. Même si un immortel s'en approchait, il admirerait et serait charmé dans son esprit. Et le puissant messager tueur d'Argos s'arrêta, et ayant tout admiré dans son esprit, entra aussitôt dans la vaste grotte. Et l'illustre déesse Calypso le reconnut, car les dieux immortels ne sont point inconnus les uns aux autres, même quand ils habitent chacun une demeure lointaine. Et Hermès ne vit pas dans la grotte le magnanime Odysseus, car celui-ci pleurait, assis sur le rivage, et, déchirant son cœur de sanglots et de gémissements, il regardait la mer agitée et versait des larmes. Mais l'illustre déesse Calypso interrogea Hermès, étant assis sur un trône splendide. « Pourquoi es-tu venu vers moi, Hermès, à la baguette d'or, vénérable et chère, que je n'ai jamais vue ici? Dis ce que tu désires. Mon cœur m'ordonne de te satisfaire, si je le puis, et si cela est possible. Mais suis-moi, afin que je t'offre les mets hospitaliers. » Ayant ainsi parlé, la déesse dressa une table en la couvrant d'ambroisie et mêla le rouge nectar. Et le messager tueur d'Argos but et mangea. Et quand il eut achevé son repas et satisfait son âme, il dit à la déesse, « Tu me demandes pourquoi un dieu vient vers toi, déesse. Je te répondrai avec vérité, comme tu le désires. Zeus m'a ordonné de venir, malgré moi, car qui parcourait volontiers les immenses eaux salées, où il n'y a aucune ville d'hommes mortels qui font des sacrifices aux dieux et leur offrent de saintes hécatombes? Mais il n'est point permis à tout autre dieu de résister à la volonté de Zeus tempétueux. On dit qu'un homme est auprès de toi, le plus malheureux de tous les hommes qui ont combattu pendant 9 ans autour de la ville de Priam, et qui, l'ayant saccagé dans la 10e année, montèrent sur leur nef pour le retour. Et ils offensèrent Athénée, qui souleva contre le vent, les grands flots et le malheur. Et tous les braves compagnons d'Odysseus périrent, et il fut lui-même jeté ici par le vent et les flots. Maintenant Zeus t'ordonne de le renvoyer très promptement, car sa destinée n'est point de mourir loin de ses amis, mais de les revoir, et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie. » Il parla ainsi, et l'illustre déesse Calypso frémit, et, lui répondant, elle dit en paroles ailées, « Vous êtes injustes, ô dieux, et les plus jaloux des autres dieux, et vous enviez les déesses qui dorment ouvertement avec les hommes qu'elles choisissent pour leur cher mari. Ainsi quand Éos, aux doigts rosés, enleva Orion, vous fûtes jaloux d'elle, ô Dieu qui vivez toujours, jusqu'à ce que la chaste Artémis au trône d'or eût tué Orion de ses douces flèches dans Ortygier. Ainsi quand Déméter aux beaux cheveux, cédant à son âme, s'unit d'amour à l'Asion sur une terre récemment labourée, Zeus, l'ayant su aussitôt, le tua en le frappant de la blanche foudre. Ainsi maintenant vous m'enviez, ô Dieu, parce que je garde auprès de moi un homme mortel que j'ai sauvé et recueilli seul sur sa carène, après que Zeus eut fendu d'un jet de foudre sa nef rapide au milieu de la mer sombre. Tous ses braves compagnons avaient péri, et le vent et les flots l'avaient poussé ici. Et je l'aimais et je le recueillis, et je me promettais de le rendre immortel et de le mettre pour toujours à l'abri de la vieillesse. Mais il n'est point permis à tout autre dieu de résister à la volonté de Zeus tempétueux, puisqu'il veut qu'Odysseus soit de nouveau errant sur la mer agitée, soit. Mais je ne le renverrai point moi-même, car je n'ai ni nef armée d'aviron, ni compagnon qui le reconduise sur le vaste dos de la mer. Je lui révélerai volontiers, et ne lui cacherai point ce qu'il faut faire pour qu'il parvienne sain et sauf dans la terre de la patrie. » Et le messager, tueur d'Argos, lui répondit aussitôt: « Renvoie-le dès maintenant, afin d'éviter la colère de Zeus, et de peur qu'il s'enflamme contre toi à l'avenir. » Ayant ainsi parlé, le puissant tueur d'Argos s'envola, et la vénérable nymphe, après avoir reçu les ordres de Zeus, alla vers le magnanime Odysseus. Et elle le trouva assis sur le rivage, et jamais ses yeux ne tarissaient de larmes, et sa douce vie se consumait à gémir dans le désir du retour, car la nymphe n'était point aimée de lui. Certes, pendant la nuit, il dormait contre sa volonté dans la grotte creuse, sans désir, auprès de celle qui le désirait. Mais le jour, assis sur les rochers et sur les rivages, il déchirait son cœur par les larmes, les gémissements et les douleurs, et il regardait la mer indomptée en versant des larmes. Et l'illustre déesse, s'approchant, lui dit: « Malheureux, ne te lamente pas plus longtemps ici, et ne consume point ta vie, car je vais te renvoyer promptement. Va, fais un large radeau avec de grands arbres tranchés par les reins, et pose par-dessus un banc très élevé, afin qu'il te porte sur la mer sombre. Et j'y placerai moi-même du pain, de l'eau et du vin rouge qui satisferont ta faim, et je te donnerai des vêtements, et je t'enverrai un vent propice, afin que tu parviennes sain et sauf dans la terre de ta patrie, si les dieux le veulent ainsi, qui habitent le large Ouranos, et qui sont plus puissants que moi par l'intelligence et la sagesse. » Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus frémit, et il lui dit en paroles ailées: « Certes, tu as une autre pensée, déesse, que celle de mon départ, puisque tu m'ordonnes de traverser sur un radeau les grandes eaux de la mer, difficiles et effrayantes, et que traversent à peine les nefs égales et rapides, se réjouissant du souffle de Zeus. Je ne monterai point, comme tu le veux, sur un radeau, à moins que tu ne jures par le grand serment des dieux que tu ne prépares point mon malheur et ma perte. » Il parla ainsi, et l'illustre déesse Calypso rit, et elle le caressa de la main, et elle lui répondit: « Certes, tu es menteur et rusé, puisque tu as pensé et parlé ainsi. Que Gaïa le sache, et le large Ouranos supérieur, et l'eau souterraine de Styx, ce qui est le plus grand et le plus terrible serment des dieux heureux, que je ne prépare ni ton malheur ni ta perte. Je t'ai offert et conseillé ce que je tenterais pour moi-même si la nécessité m'y contraignait. Mon esprit est équitable, et je n'ai point dans ma poitrine un cœur de fer, mais compatissant. » Ayant ainsi parlé, l'illustre déesse le précéda promptement, et il allait sur les traces de la déesse. Et tous deux parvinrent à la grotte creuse, et il s'assit sur le trône d'où s'était levé Hermès, et la nymphe plaça devant lui les choses que les hommes mortels ont coutume de manger et de boire. Elle-même s'assit auprès du divin Odysseus, et les servantes placèrent devant elle l'ambroisie et le nectar. Et tous deux étendirent les mains vers les mets placés devant eux. Et quand ils eurent assouvi la faim et la soif, l'illustre déesse Calypso commença de parler: « Divin Laertiade, subtil Odysseus, ainsi tu veux donc retourner dans ta demeure et dans la chère terre de la patrie. Cependant, reçois mon salut. Si tu savais dans ton esprit combien de maux il est dans ta destinée de subir avant d'arriver à la terre de la patrie, certes, tu resterais ici, avec moi, dans cette demeure, et tu serais immortel, bien que tu désires revoir ta femme, que tu regrettes tous les jours. Et certes, je me glorifie de ne lui être inférieur ni par la beauté, ni par l'esprit, car les mortels ne peuvent lutter de beauté avec les immortels. Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi. Vénérable déesse, ne t'irrite point pour cela contre moi. Je sais en effet que la sage Pénélope t'est bien inférieure en beauté et majesté. Elle est mortelle et tu ne connaîtras point la vieillesse. Et cependant, je veux et je désire tous les jours revoir le moment du retour et regagner ma demeure. Si quelque dieu m'accable encore de maux sur la sombre mer, je les subirai avec un cœur patient. J'ai déjà beaucoup souffert sur les flots et dans la guerre. Que de nouvelles misères m'arrivent s'il le faut. Il parla ainsi, et Hélios tomba et les ténèbres survinrent. Et tous deux, se retirant dans le fond de la grotte creuse, se charmèrent par l'amour, couchés ensemble. Et quand Eos, aux doigts rosés, né au matin, apparut, aussitôt Odysseus revêtut sa tunique et son manteau. Et la nymphe se couvrit d'une grande robe blanche, légère et gracieuse. Et elle mit autour de ses reins une belle ceinture d'or, et sur sa tête un voile. Enfin, préparant le départ du magnanime Odysseus, elle lui donna une grande hache d'airain, bien en main, à deux tranchants, et aux beaux manches, faits de bois d'olivier. Et elle lui donna ensuite une doloire aiguisée, et elle le conduisit à l'extrémité de l'île, où croissaient de grands arbres, des aulnes, des peupliers et des pins qui atteignaient l'Ouranos et dont le bois sec flotterait plus légèrement. Et lui, ayant montré le lieu où les grands arbres croissaient, l'illustre déesse Calypso retourna dans sa demeure. Et aussitôt Odysseus trancha les arbres et fit promptement son travail. Et il en abattit 20 qu'il ébrancha, équarrit et aligna au cordeau. Pendant ce temps, l'illustre déesse Calypso apporta des tarières, et il perça les bois et les unit entre eux, les liant avec des chevilles et des cordes. Aussi grande est la cale d'une nef de charge que construit un excellent ouvrier, aussi grand était le radeau construit par Odysseus. Et il éleva un pont qu'il fit avec des ais épais, et il tailla un mât auquel il attacha l'antenne. Puis il fit le gouvernail, qu'il munit de clés de saule, afin qu'il résistât au choc des flots. Puis il amassa un grand lest. Pendant ce temps, l'illustre déesse Calypso apporta de la toile pour faire les voiles, et il les fit habilement, et il les lia aux antennes avec des cordes. Puis il conduisit le radeau à la mer large, à l'aide de leviers. Et le quatrième jour, tout le travail était achevé. Et le cinquième jour, la divine Calypso le renvoya de l'île, l'ayant baigné et couvert de vêtements parfumés. Et la déesse mit sur le radeau une outre de vin noir, puis une outre plus grande pleine d'eau. Puis elle lui donna, dans un sac de cuir, une grande quantité de vivres fortifiants, et elle lui envoya un vent doux et propice. Et le divin Odysseus, joyeux, déploya ses voiles au vent propice. Et s'étant assis à la barre, il gouvernait habilement, sans que le sommeil fermât ses paupières. Et il contemplait les Pléiades, et le bouvier qui se couchait, et l'ours qu'on nomme le chariot, et qui tourne en place en regardant Orion, et seul ne touche point les eaux de l'Okéanos. L'illustre déesse Calypso lui avait ordonné de naviguer, en la laissant toujours à gauche. Et pendant 17 jours, il fit route sur la mer, et le 18e apparurent les monts boisés de la terre des Phaïcaïens. Et cette terre était proche, et elle lui apparaissait comme un bouclier sur la mer sombre. Et le puissant qui ébranle la terre revenait du pays des Éthiopiens et du haut des montagnes des Solymes. il vit de loin Odysseus traversant la mer. Et son cœur s'échauffa violemment, et secouant la tête, il dit dans son esprit, « Ô Dieu, les immortels ont décidé autrement d'Odysseus, tandis que j'étais chez les Éthiopiens. Voici qu'il approche de la terre des Phaïcaïens, où sa destinée est qu'il rompe sa longue chaîne de misère qui l'accable. Mais je pense qu'il va en subir encore. » Ayant ainsi parlé, il amassa les nuées et souleva la mer. Et il saisit de ses mains son trident, et il déchaîna la tempête de tous les vents. Et il enveloppa de nuages la terre et la mer, et la nuit se rua de l'Ouranos. Et l'Euros et le Notos soufflèrent, et le violent Zéphyros et l'impétueux Boréas, soulevant de grandes lames. Et les genoux d'Odysseus et son cher cœur furent brisés, et il dit avec tristesse dans son esprit magnanime, « Ah, malheureux que je suis, que va-t-il m'arriver? Je le crains, la déesse ne m'a point trompé quand elle m'a dit que je subirais des maux nombreux sur la mer avant de parvenir à la terre de la patrie. Certes, voici que ses paroles s'accomplissent. De quelle nuée Zeus couronne le large Ouranos? La mer est soulevée, les tempêtes de tous les vents sont déchaînées, et voici ma ruine suprême. Trois et quatre fois heureux les Danaïens qui sont morts autrefois devant la grande Troie pour plaire aux Atréides. Plutôt Dieu que j'eusse subi ma destinée et que je fusse mort le jour où les Troyens m'assiégeaient de leurs lances d'airain autour du cadavre d'Achille. Alors on eut accompli mes funérailles, les Achaïens eussent célébré ma gloire. Maintenant ma destinée est de subir une mort obscure. » Il parla ainsi, et une grande lame se ruant sur lui, effrayante, renversa le radeau. Et Odysseus en fut enlevé, et le gouvernail fut arraché de ses mains, et la tempête horrible des vents confondus brisa le mât par le milieu, et l'antenne et la voile furent emportées à la mer, et Odysseus resta longtemps sous l'eau, ne pouvant émerger de suite à cause de l'impétuosité de la mer. Et il reparut enfin, et les vêtements que la divine Calypso lui avait donnés étaient alourdis, et il vomit l'eau salée, et l'écume ruisselait de sa tête. Mais, bien qu'affligé, il n'oublia point le radeau, et nageant avec vigueur à travers les flots, il le ressaisit, et se sauvant de la mort, il s'assit. Et les grandes lames impétueuses emportaient le radeau çà et là, de même que l'automnal Boréas chasse par les plaines les feuilles desséchées, de même les vents chassaient çà et là le radeau sur la mer. Tantôt l'Euros le cédait à Zéphyros, afin que celui-ci l'entraînât, tantôt le Notos le cédait à Boréas. Et la fille de Cadmos, Ino au beau talon, qui autrefois était mortelle, le vit. Maintenant elle se nomme Leucothée, et partage les honneurs des dieux dans les flots de la mer. Et elle prit en pitié Odysseus, errant et accablé de douleur. Et elle émergea de l'abîme, semblable à un plongeon, et se posant sur le radeau, elle dit à Odysseus, « Malheureux, pourquoi Poséidon, qui ébranle la terre, est-il si cruellement irrité contre toi, qu'il t'accable de tant de maux? Mais il ne te perdra pas, bien qu'il le veuille. Fais ce que je vais te dire, car tu ne me sembles pas manquer de sagesse. Ayant rejeté tes vêtements, abandonne le radeau au vent et nage de tes bras jusqu'à la terre des Phaïcaïens, où tu dois être sauvé. Prends cette bandelette immortelle, étends-la sur ta poitrine, et ne crains plus ni la douleur ni la mort. Dès que tu auras saisi le rivage de tes mains, tu la rejetteras au loin dans la sombre mer, en te détournant. » La déesse ayant ainsi parlé, lui donna la bandelette. Puis elle se replongea dans la mer tumultueuse, semblable à un plongeon, et le flot noir la recouvrit. Mais le patient et divin Odysseus hésitait, et il dit en gémissant dans son esprit magnanime : « Hélas, je crains qu'un des immortels ourdisse une ruse contre moi en m'ordonnant de me jeter hors du radeau. Mais je ne lui obéirai pas aisément, car cette terre est encore très éloignée, où elle dit que je dois échapper à la mort. Mais je ferai ceci, et il me semble que c'est le plus sage. Aussi longtemps que ces pièces de bois seront unies par leurs liens, je resterai ici, et je subirai mon mal patiemment. Et dès que la mer aura rompu le radeau, je nagerai, car je ne pourrai rien faire de mieux. » Tandis qu'il pensait ainsi dans son esprit et dans son cœur, Poséidon, qui ébranle la terre, souleva une lame immense, effrayante, lourde et haute, et la jeta sur Odysseus. De même que le vent qui souffle avec violence disperse un monceau de paille sèche qui l'emporte çà et là, de même la mer dispersa les longues poutres, et Odysseus monta sur une d'entre elles comme sur un cheval qu'on dirige. Et il dépouilla les vêtements que la divine Calypso lui avait donnés, et il étendit aussitôt sur sa poitrine la bandelette de Leucothée. Puis, s'allongeant sur la mer, il étendit les bras, plein du désir de nager. Et le puissant qui ébranle la terre le vit, et secouant la tête, il dit dans son esprit « Va, subis encore 1000 maux, et rends sur la mer, jusqu'à ce que tu abordes ces hommes nourris par Zeus. Mais j'espère que tu ne te riras plus de mes châtiments. » Ayant ainsi parlé, il poussa ses chevaux aux belles crinières et parvint à Aigas, où sont ses demeures illustres. Mais Athénée, la fille de Zeus, eut d'autres pensées. Elle rompit le cours des vents, et elle leur ordonna de cesser et de s'endormir. Et elle excita seule le rapide Boréas, et elle réfréna les flots jusqu'à ce que le divin Odysseus, ayant évité la guerre et la mort, se fut mêlé aux Phaïcaïens, habiles aux travaux de la mer. Et pendant de nuit et de jour, Odysseus erra par les flots sombres, et son cœur vit souvent la mort. Mais quand Éos, aux beaux cheveux, amena le troisième jour, le vent s'apaisa, et la sérénité tranquille se fit, et se soulevant sur la mer, et regardant avec ardeur, il vit la terre toute proche. De même qu'à des fils est rendue la vie désirée d'un père qui, en proie à un dieu contraire, a longtemps subi de grandes douleurs, mais que les dieux ont enfin délivré de son mal, de même la terre et les bois apparurent joyeusement à Odysseus. Et il nageait, s'efforçant de fouler de ses pieds cette terre. Mais comme il n'en était éloigné que de la portée de la voix, il entendit le son de la mer contre les rochers. Et les vastes flots se brisaient, effrayants, contre la côte aride, et tout était enveloppé de l'écume de la mer. Et il n'y avait là ni port ni abri pour les nefs, et le rivage était hérissé d'écueils et de rochers. Alors les genoux et le cher cœur d'Odysseus furent brisés, et gémissant, il dit dans son esprit magnanime : « Hélas ! Zeus m'a accordé de voir une terre inespérée, et je suis arrivé ici après avoir sillonné les eaux, et je ne sais comment sortir de la mer profonde. Les rochers aigus se dressent, les flots impétueux écument de tous côtés, et la côte est escarpée, la profonde mer est proche, et je ne puis appuyer mes pieds nulle part, ni échapper à mes misères. Et peut-être le grand flot va-t-il me jeter contre ces roches, et tous mes efforts seront vains, si je nage encore afin de trouver ailleurs une plage heurtée par les eaux, ou un port. Je crains que la tempête me saisisse de nouveau et me rejette, malgré mes gémissements, dans la haute mer poissonneuse. Ou même qu'un dieu me livre à un monstre marin, de ceux que l'illustre Amphitrite nourrit en grand nombre. Je sais en effet combien l'illustre qui ébranle la terre est irrité contre moi. » Tandis qu'il délibérait ainsi dans son esprit et dans son cœur, une vaste lame le porta vers l'âpre rivage, et il eût déchiré sa peau et brisé ses os si Athéna, la déesse aux yeux clairs, ne l'eût inspiré. Emporté en avant de ses deux mains, il saisit la roche et il embrassa en gémissant jusqu'à ce que le flot immense ne fût déroulé, et il se sauva ainsi. Mais le reflux se ruant sur lui, le frappa et le remporta en mer. De même que les petites pierres restent en grand nombre attachées aux articulations creuses du polypode arraché de son esprit, de même la peau de ses mains vigoureuses s'était déchirée au rocher, et le flot vaste le recouvrit. Là, enfin, le malheureux Odysseus eût péri malgré la destinée, si Athéna, la déesse aux yeux clairs, ne l'eût inspiré sagement. Il revint sur l'eau, et traversant les lames qui le poussaient à la côte, il nagea, examinant la terre et cherchant s'il trouverait quelque part une plage heurtée par les flots, ou un port. Et quand il fut arrivé, en nageant, à l'embouchure d'un fleuve au beau cours, il vit que cet endroit était excellent, et mis à l'abri du vent par des roches égales. Et il examina le cours du fleuve, et dans son esprit, il dit en suppliant, « Entends-moi, ô roi, qui que tu sois, je viens à toi en te suppliant avec ardeur et fuyant hors de la mer la colère de Poséidon. Celui qui vient errant est vénérable aux dieux immortels et aux hommes. Tel je suis maintenant en abordant ton cours, car je t'approche après avoir subi de nombreuses misères. Prends pitié, ô roi. Je me glorifie d'être ton suppléant. » Il parla ainsi, et le fleuve s'apaisa, arrêtant son cours et les flots. Et il se fit tranquille devant Odysseus. Et il le recueillit à son embouchure. Et les genoux et les bras vigoureux du Laertiade étaient rompus, et son cher cœur était accablé par la mer. Tout son corps était gonflé, et l'eau salée remplissait sa bouche et ses narines. Sans haleine et sans voix, il gisait sans force, et une violente fatigue l'accablait. Mais ayant respiré et recouvré l'esprit, il détacha la bandelette de la déesse et la jeta dans le fleuve qui l'emporta à la mer, où Ino la saisit aussitôt de ses chères mains. Alors Odysseus, s'éloignant du fleuve, se coucha dans les joncs, et il baisa la terre et dit en gémissant dans son esprit magnanime, « Hélas, que va-t-il m'arriver, et que vais-je souffrir si je passe la nuit dangereuse dans le fleuve? Je crains que la mauvaise fraîcheur et la rosée du matin achèvent d'affaiblir mon âme. Le fleuve souffle en effet, au matin, un air froid. Si je montais sur la hauteur vers ce bois ombragé, je m'endormirais sous les arbustes épais, et le doux sommeil me saisirait, à moins que le froid et la fatigue s'y opposent. Mais je crains d'être la proie des bêtes fauves. » Ayant ainsi délibéré, il vit que ceci était pour le mieux, et il se hâta vers la forêt qui se trouvait sur la hauteur, près de la côte. Et il aperçut deux arbustes entrelacés, dont l'un était un olivier sauvage, et l'autre un olivier. Et là, ni la violence humide des vents, ni Hélios étincelant de rayons, ni la pluie ne pénétraient, tant les rameaux entrelacés étaient touffus. Et Odysseus s'y coucha, après avoir amassé un large lit de feuilles, et si abondant que deux ou trois hommes s'y seraient blottis par le temps d'hiver le plus rude. Et le patient et divin Odysseus, joyeux de voir ce lit, se coucha au milieu, en se couvrant de l'abondance des feuilles, de même qu'un berger, à l'extrémité d'une terre où il n'a aucun voisin, recouvre ses tisons de cendres noires et conserve ainsi le germe du feu, afin de ne point aller le chercher ailleurs. De même, Odysseus était caché sous les feuilles, et Athéna répandit le sommeil sur ses yeux et ferma ses paupières pour qu'il se reposât promptement de ses rudes travaux.